Jean Lhermier, bonjour.
Bonjour.
Je dis pour les auditeurs que vous êtes masqué. Moi, j'avoue que je me démasque un petit peu pour qu'on entende quand même ce que je raconte. On finit par se rencontrer après plusieurs tentatives, parce que vous étiez depuis des semaines en répétition pour Cyrano. Cyrano, vous aviez déjà monté il y a 3 ans avec Gilles Privat. Et Cyrano, que malheureusement, les comédiens en union avec vous, vous avez décidé de suspendre. Suite à la décision du Conseil fédéral la semaine dernière. Cependant, nous étions censés nous rencontrer pour parler de la nouvelle saison. La nouvelle saison qui a commencé avec le Festival de la Bâtie, qui, je le souhaite, pour vous, pour les comédiens, pour tout le secteur du théâtre, va se poursuivre. Est-ce qu'on peut déjà quand même présenter un aperçu de la saison, même si pour l'instant, bien sûr, les inconnues restent nombreuses. James Terrier, ensuite, pour Room.
Alors James va venir pour répéter là au mois de novembre, début décembre, pour sa toute prochaine création. Il était déjà venu au théâtre de Carouge quand il avait créé La Grenouille avait raison, qu'il a élu domicile au théâtre de Carouge parce qu'il a dit que avec l'équipe du théâtre, il avait l'impression que sa compagnie s'était agrandie. Donc il y a des relations fortes qui se sont tissées entre lui et puis sa famille d'ailleurs, hein, ses parents, Jean-Baptiste Thiéré, Victoria Chaplin et puis sa sœur Aurélia Thiéré, et que là il répète déjà depuis des mois le spectacle et il vient faire la fin des répétitions jusqu'à la création le 11 décembre et puis on va jouer jusqu'au 31 décembre. Si tout se passe bien, si tout se passe bien parce qu'on dépend évidemment du contexte sanitaire, tant pour l'application des répétitions que d'éventuelles représentations. Mais le fait est que c'est un spectacle qui est particulier dans le trajet de James, c'est pour ça que pour lui c'était important qu'il puisse être bien entouré ici au théâtre de Carouge, c'est-à-dire vraiment en confiance. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de danseurs, d'acrobates, qu'il a décidé de rompre avec le récit, c'est-à-dire avec une histoire, un scénario, même avec, d'habitude, il y a beaucoup d'imagination et c'est très elliptique comment il crée ses spectacles. Mais là, il y a le souci de plutôt se rapprocher du café théâtre, du cabaret, des grands numéros de cirque qu'on pouvait voir il y a longtemps dans les cabarets où chaque artiste avait un numéro approprié qui trimballait de théâtre en théâtre tout au long de sa vie. Donc là, il s'est associé avec des artistes incroyables dans le monde entier et les répétitions jusqu'à présent se passent super bien. Ils sont en forme, contents, heureux. Maintenant, jusqu'à quand et comment ça va se passer, c'est encore un petit peu tôt de le dire, mais c'est vrai que j'ai tenu, alors peut-être que ça sera amené à ne pas pouvoir se faire, mais j'ai tenu quand même à maintenir la programmation telle qu'elle était prévue, déjà depuis près d'une année hein, quand même, donc bien avant le mois de mars et puis de la première vague, et parce que je me disais, ben voilà, il faut qu'on avance un peu au jour le jour, et que pour moi c'était important qu'une institution comme Carouge maintienne ses engagements, maintienne ses contrats, les honore. Et je me suis dit que dans la période que nous traversons, nous avons besoin de ces grands et beaux spectacles qui se basent sur l'imaginaire, qui sont puissants, qui sont généreux, et puis qui nous extraient, qui nous sortent un peu de la morosité, du côté
Du climat
anxiogène,
anxiogène.
du climat, et puis d'essayer d'apporter, c'est notre petite pierre à l'édifice, un petit peu d'apaisement dans cette période extrêmement trouble. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Italie, à Barcelone, en Angleterre, en France,
À
récemment
Vienne.
encore à Berne, où une contre-manifestation de gens qui s'opposaient aux mesures. Et qu'on voit qu'en ce moment, en Europe, il y a un mouvement en fait d'opposition et de résistance face au pouvoir, parce que les gens disent, mais ils n'arrivent pas à gérer la crise, donc il n'y a pas de raison qu'on s'en remette à eux, et que c'est quand même une remise en question de la démocratie. Et que je me dis, bah, dans ces moments-là, les lieux culturels et l'art, on a une mission qui est une mission de remettre les gens ensemble, parce qu'on a les lieux pour le faire, pour fédérer, et puis pour apporter justement ce que moi je considère comme de l'apaisement et de tisser du lien social. Alors entendons-nous bien, hein, dans des conditions hyper strictes de sécurité, les plans de protection qui ont été établis dans les théâtres, et particulièrement au théâtre de Carouge, sont efficaces, ils se sont montrés tout à fait viables et en relation avec les autorités. Donc j'espère que à court terme, on aura l'occasion de pouvoir rouvrir nos théâtres pour pouvoir permettre à celles et ceux qui en éprouvent le besoin, la nécessité, de pouvoir se retrouver, encore une fois, dans un contexte sécurisé, et que pour les fêtes, je pense que c'est difficile d'imaginer mieux que le spectacle Room de James Thiéré.
Et puis pour rebondir sur vos propos, Jean Lhermier, vous disiez dans une précédente interview qu'il est important que le public, les spectateurs, aient faim de spectacle, de théâtre. Là, j'imagine que vu le contexte anxiogène dans lequel nous vivons depuis des mois, le public a d'autant plus faim de se divertir, d'avoir un petit peu de nourriture de l'âme.
Exactement, c'est-à-dire qu'on a pu le mesurer au moment du premier confinement, où on a interrompu les représentations du Marivaux après une semaine de représentation. On a eu un nombre de témoignages de spectateurs, alors à la fois pour nous encourager, pour nous soutenir, mais beaucoup disaient, nous ne nous étions pas rendus compte à quel point c'était important pour nous. Donc il y avait une prise de conscience pour eux que finalement ça n'était pas qu'un hobby ou une sortie, que c'était pas une cerise sur le gâteau, mais que c'était constitutif de leur vie. Et que c'est vrai que on peut considérer que l'être humain est un animal social et qu'il ne faudrait pas que ça soit que cette part-là de l'être humain se trouve étouffée par un combat économie versus santé, parce qu'il y a quand même la question de l'enseignement, à ne pas sacrifier l'attention, à ne pas sacrifier une génération, et puis encore une fois celles et ceux qui éprouvent ce besoin et cette nécessité de se nourrir autrement que dans les supermarchés. Ça, l'être humain ne repose pas que là-dessus.
Le
Et ça,
consumérisme.
exactement. Et ça, on a pu le vérifier dans la première vague. Et puis, là, quand on a ouvert les réservations de Cyrano, je crois qu'en une semaine, on avait vendu, on a dû rajouter une supplémentaire parce que c'était plein. Et qu'il y avait un désir, un appétit des gens de se retrouver. J'emploierais vraiment à dessein ce mot-là. Nous avons ressenti avec mon équipe une ferveur. C'est vraiment de cet ordre-là, de la ferveur. Et que je me dois d'essayer de trouver les chemins, le cadre, encore une fois, si tant est que les autorités nous le permettent, de répondre à ces attentes et à cette ferveur-là. Alors, si ça doit être repoussé un peu, ok, les gens, cet élan ou cette énergie, elle ne redescendra pas. Mais je pense que dans ce moment de tension extrême que l'humanité est en train de traverser, les lieux culturels ont véritablement un rôle à jouer, si tant est que les autorités nous permettent de le faire.
Je rebondis à nouveau sur ce que vous dites, je fais un petit aparté par rapport à la saison. Cette ferveur, justement, vous allez chercher aussi à la procurer, à la faire naître chez des gens qui sont peut-être moins coutumiers des lieux de culture, en particulier des théâtres, des salles de spectacle, en allant avec votre camion théâtre. Actuellement, tout est suspendu, bien évidemment.
Oui, alors là, toutes les manifestations sur la voie publique sont suspendues. Là, on avait créé une version de La Grande Guerre du Sondrebon, qui est un texte de Ramu, en recréant une espèce de petit comptoir buvette de gare du canton de Vaud. Et puis, on a eu l'occasion déjà de jouer dans pas mal de villes du canton de Genève, l'idée étant de sillonner le canton. On l'a fait également sur le canton de Vaud avec le texte de Ramu, et que systématiquement, les réactions allaient dans le sens de dire merci au théâtre de Carouge de venir jusqu'à nous, c'est-à-dire qu'il y avait une reconnaissance de l'institution, et puis évidemment, on touche d'autres spectateurs qui n'ont pas l'habitude d'aller de fréquenter les institutions culturelles. Et encore pas loin d'ici, en bas des tours, du côté de la Fontenette, à Carouge, on s'est retrouvé au moment des ce qu'on appelle les raccords, le moment où on répète dans l'endroit de la représentation avant le spectacle du soir, où évidemment il y a plein d'enfants qui viennent regarder ce qui est en train de se passer dans la cour juste en bas de chez eux. Et que on a assisté à des scènes extraordinaires où c'était les enfants qui amenaient leurs parents le soir à la représentation. Et à la fin, les parents de venir voir les comédiennes et les comédiens en disant merci. Revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Donc c'est une façon pour moi extrêmement concrète de rendre l'art accessible au plus grand nombre, puisque le spectacle est gratuit, et puis d'aller au-devant de nouveaux publics et de faire en sorte qu'ils comprennent de l'intérieur que l'institution que je dirige momentanément, en fait, elle est à eux, elle n'est pas à moi.
Donc c'est un creuset à la fois social et aussi générationnel, d'après ce que vous dites.
Oui, et ça pour moi c'est fondamental, c'est-à-dire de comment on parle beaucoup de renouveler le public, qui est une formule qui me choque parce que renouveler le public ça veut dire qu'on va en mettre une partie à la poubelle. C'est monstrueux, ne serait-ce qu'il y a une partie des gens qui étaient là par exemple en 58, hein, à la naissance du théâtre de Carouge, et qui font qu'aujourd'hui je peux diriger cette institution. S'il n'y avait pas de spectateurs, on ne serait pas là. Donc je me vois mal ne pas prendre soin d'eux. Après, il ne s'agit pas tellement de le renouveler que de l'augmenter. Et donc là, il faut aller chercher d'autres spectateurs de tous les âges, hein, d'une certaine façon, mais particulièrement le public des jeunes, qu'on touche aussi grâce aux écoles, grâce aux mesures comme les billets 20 ans, 20 francs. Mais c'est vrai qu'on entreprend pas mal de démarches pour que se brisent les barrières de la peur et de l'appréhension. Il y a une appréhension vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis du théâtre. On se dit, mais c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Puis vous savez, moi, la journée, je travaille. Puis je dis, mais ça n'a rien à voir. Donc le travail, c'est d'essayer de leur tendre la main, c'est-à-dire que c'est un combat de tranchées. Il faut aller les voir directement, chez eux, avoir un contact physique, sur le marché, devant la poste, pour les amener. Et ensuite, c'est aux artistes de faire leur travail, c'est-à-dire d'avoir un spectacle qui soit assez fort pour que les gens se disent, effectivement, c'est aussi pour moi, et j'aurai le plaisir de pouvoir revenir. Donc c'est un énorme travail de mobilisation, en fait, des équipes, d'une grande connaissance de ce qui se passe sur le plateau, c'est-à-dire des spectacles qu'on va présenter, pour aller prêcher la bonne parole et aller essayer de convaincre des gens de venir, ne serait-ce qu'une première fois, parce que ils peuvent se sentir en confiance chez eux et profiter véritablement de notre travail. Et que c'est vrai que, alors il y a des spectacles très très forts, comme le spectacle Cyrano qui draine plus de 12 500 spectateurs à Carouge, ce qui est énorme, c'est unique en Suisse pour un spectacle de théâtre. Donc là, on est susceptible justement de pouvoir élargir considérablement la provenance des gens qui viennent pour le coup, quel que soit leur âge, quel que soit leur culture et quel que soit, et ce qui a une importance particulière aujourd'hui, leur obédience religieuse, dirais-je.
Très important actuellement. On
Non.
ne va pas faire de polémique,
Non.
comme diraient certaines personnes, mais je rebondis sur ce que vous disiez pour aller vers les gens. Vous aviez déjà été très novateur avec les géants que vous aviez invités à Genève. Et ça avait été une sorte de fédération des gens qui ne savaient même pas ce que c'était ces géants, qui se sont tous fédérés pour les voir défiler dans les ruelles de Genève. C'était très impressionnant. Et ça, je pense que cette démarche est d'autant plus bienvenue que justement, il y a beaucoup d'ismes actuellement. Quels que soient les ismes, populisme et tout ce qu'on veut, voire fanatisme. Et donc, c'est d'autant plus salutaire et bienvenu. Et je pense que des gens qui sont peut-être pas concernés, comme vous disiez, ont envie justement de s'immerger dans la culture grâce à vos démarches. Est-ce que vous le ressentez comme ça actuellement?
Oui, bah, tout à fait. C'est vrai que les géants, quand on se met à toucher 1 million de personnes et puis que finalement le théâtre, la scène est une ville entière, c'est juste exceptionnel avec tout ce que ça a créé à l'intérieur de la cité, avec les différentes administrations du canton, de la ville de Genève, de la ville de Carouge. Enfin, c'était un événement unique, hors norme et puis qui va marquer des générations. Donc ça, pour moi, c'était fondamental de le faire. On l'a porté, on était à l'initiative de ce projet. C'est-à-dire, c'était de faire une démonstration concrète que l'art fédérait et rassemblait. Et que moi, j'avais beaucoup parlé, j'avais dû trouver des petits sous, donc je m'étais beaucoup battu pour convaincre les gens de nous accompagner, de nous soutenir. Et il y avait certaines personnes qui étaient réticentes en disant, oui, bon, il fait venir des grandes marionnettes, d'accord. Et qui ensuite reprenaient contact avec moi en disant, mais d'une part, tu sais, la petite géante, elle m'a regardé. J'étais, ah bon, ah oui, d'accord. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai des larmes qui ont coulé. Et je ne me l'explique pas, mais je voulais juste te le dire. C'est-à-dire que un projet comme celui-ci, de la Compagnie Royale de Luxe, il touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'ADN de l'être humain dont on parlait tout à l'heure, les animaux sociaux que nous sommes. Et que là, on touche à quelque chose qui est de l'ordre du mythe, de ces géants qui sont là, qui sont manipulés par des Lilliputiens, qui sont des êtres humains. Et il y a une force et une portée poétique qui, encore une fois, quelle que soit la culture ou la religion ou la génération, peut faire mouche. Et que pour moi, alors il ne s'agit pas de faire ça tous les ans, mais c'est-à-dire qu'il y a l'activité au quotidien dans le théâtre, mais de parfois avoir l'occasion d'avoir des événements comme ça hors normes. Qui donne un message extrêmement fort pour moi à la population de notre capacité à vivre ensemble, véritablement, et à pouvoir partager ensemble des émotions qui vont nous marquer avec des traces indélébiles.
Grâce à un message et des émotions qui sont universelles.
Exactement.
Et pour revenir à la saison, alors, un habitué aussi, un comparse, Omar Porras, le Théâtre au Malandreau, avec le Conte de Noël. On espère qu'on aura droit à ce spectacle.
Alors, c'est le conte des contes.
Ah, le Comte des Contes.
Ouais, le
Autant
conte
pour
de
moi.
Noël, c'était l'année passée, avec Claudine Gabarbet. Mais le conte des contes, c'est un spectacle mis en scène par Omar, puisque le TKM, le Théâtre Kléber-Mello, qu'il dirige actuellement, est un théâtre partenaire, presque, je dirais même frère, puisqu'on a quasiment les mêmes géniteurs à partir de Philippe Manta, qui était à l'origine du théâtre de Carouge et du théâtre Kléber-Mello. Et puis nous sommes deux artistes. Et puis dès ma première saison en 2008, j'ai souhaité qu'Omar, qui pour moi est un des plus grands représentants artistiques de la Suisse, depuis des décennies déjà, il devait faire partie de cette première saison. Et puis là, il m'est arrivé quelque chose de particulier, c'est qu'au début du mois de mars, Omar me téléphone et me dit, écoute, ben voilà, le message du Conseil fédéral vient de tomber. Notre première est mardi, aujourd'hui nous sommes vendredi, on ne pourra pas jouer. On fait une générale ce soir, je t'invite, viens. Et on était quelques-uns dans la salle et que je me disais, waouh, c'est quand les jours meilleurs viendront, quand nous pourrons à nouveau nous réunir, c'est exactement le spectacle qu'il faut. Entre la comédie musicale, mais très développée, avec des acteurs-chanteurs, dont Philippe Gouin, qui est époustouflant, qui vous embarque, qui vous emporte. On a l'impression qu'on est au Carnaval de Rio. Après, on a l'impression qu'on est dans un film gore, amusant, dans les grandes histoires de ces contes qui nous constituent. C'est des histoires que nous traînons avec nous, dans l'imaginaire collectif. Et Omar a un sens du plateau, de la technique, de la beauté, des capacités extraordinaires dans sa mise en valeur des artisans du théâtre, comme quelqu'un comme Laurent Boulanger qui s'occupe des artifices dans ses spectacles, mais c'est un savoir-faire qui est énorme, c'est extraordinaire. Et que là, on était quelques-uns dans cette salle-là, à la fin, debout, à taper dans les mains et avoir envie que ça continue comme des enfants, où on disait, mais encore, 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 raconte-nous encore l'histoire. Et que là, on va les recevoir au mois de janvier. Et que je me réjouis parce que, et c'est un peu comme ça que je pensais la saison, c'est que chaque spectacle en fait est un baume. Chaque spectacle est porteur d'espoir et fait passer aux spectateurs qui nous rejoignent un moment de vie intense, un petit peu plus intense que le quotidien ou un petit peu avec un écart justement avec BFM TV ou la télé-réalité. Tout d'un coup, la force et la puissance de la poésie font que on est transporté et que ça. Je pense que ce sont des éléments qui nous aident simplement à mieux traverser les épreuves que nous traversons aujourd'hui.
Et justement, pour la suite, bon, on espère que ça sera enfin une accalmie, en tout cas pour le monde du spectacle, de la culture. On espère aussi que les dieux des panthéons de la culture et des comédiens vont pouvoir nous aider à lutter face à ce virus qui a l'air si virulent. Donc la suite, quand même, la saison, vous avez de nouveau des gens qui vous sont connus,
Oui,
qui seront là.
bah, j'ai par exemple Victoria Chaplin et Aurélia Thierry qui reviennent avec un spectacle qui était programmé la saison passée, Bells and Spells, mais qu'on n'a pas pu jouer parce qu'on était en confinement. Et donc ils reviennent faire une série de représentations. Là, on a l'impression que c'est drôle parce que James est quelqu'un qui souvent dans ses spectacles amène de la technique de scène qui fait qu'il vole. C'est comme s'il cherchait à braver la pesanteur. Et Aurélia, c'est un peu la même chose, si ce n'est qu'il n'y a pas d'artifice autour d'elle. Il y a une légèreté, une grâce dans elle, dans sa personnalité, dans sa façon d'appréhender le plateau, qu'on a l'impression qu'elle est parfois complètement éthérée, transparente, comme si c'était un voile. Et puis sa maman, qui est Victoria Chaplin, prépare enfin, le spectacle qu'elle nous offre, où à un moment donné, il y a une espèce d'immense cheval énorme, monstrueux, qui est fait de porte-manteau, qui se crée là sous nos yeux et tout d'un coup, paf, qui se met à partir. Donc c'est des images d'une poésie, mais à vous couper le souffle. C'est tout simple. Mais là, encore une fois, ce sont des temps suspendus qui font du bien. Et puis, il y a quelqu'un que je me réjouis de retrouver, on l'avait reçu dans la petite salle, c'est Yvonne Stadt qui vient avec Eve Bonfanti, sa comparse, présenter un spectacle qui s'appelle La tragédie comique. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire au spectateur. C'est une personne sur le plateau, Yves. Il en joue 1000. Et que dans l'heure 40 de la représentation, moi j'ai vu ce spectacle il y a une trentaine d'années au Théâtre Saint-Gervais, alors que je faisais le videur du théâtre pour payer mes études à Genève, mes études supérieures de comédien. Et je faisais donc celui qui déchirait les tickets, puis ensuite qui fermait le théâtre. Et je me souviens que chaque soir de représentation, je ne pouvais pas m'empêcher de rester tout le temps de la représentation avec les yeux. J'essayais de guigner entre les portes fermées pour surtout pas le déranger en entrant dans la salle. Et j'ai regardé toutes les représentations. Et que j'étais sidéré de voir combien les spectateurs mais pleuraient de rire. Certains devaient sortir tellement ils riaient. Et tout, et en même temps, ils étaient émus aux larmes. Ça, c'est un truc que j'avais jamais vu ailleurs. Et il se trouve que Yves a une capacité d'être dans le présent et que ce spectacle est un, pour moi, c'est le cadeau absolu, et que la trajectoire aurait voulu normalement en temps normal, mais on n'est plus du tout en temps normal. On avait commencé l'ère de la cuisine avec Room, avec le Raoul de James Thierry, grand spectacle de machinerie, tout ça, et on aurait dû terminer notre activité à la cuisine à la fin du mois de mars avec justement Yves Unstadt, un seul comédien, mais qui vous embarque toute la salle. Donc ça, ce sont des rendez-vous, voilà, que j'attends évidemment avec une impatience crasse. Et puis il y a un nouveau venu qui est Jean-Christophe Humbert, qui monte une adaptation du Capitaine Fracasse. Alors ça s'appelle Fracasse, grand roman de Théophile Gautier, de cap et d'épée, d'amour généreux. Et la chose qui m'a plu chez Jean-Christophe, qui est un jeune metteur en scène, alors le grand public le connaît. Il ne le sait pas, mais il le connaît. C'est-à-dire qu'il y a une série à la télévision qui s'appelle Kaamelott, et dans lequel il a un des personnages récurrents, puisqu'il joue Caradoc, et lui est un très proche collaborateur d'Alexandre Astier, le fondateur, le créateur de la série Kaamelott.
Vous aurez beaucoup de jeunes, en tout cas, dans la salle.
Ouais, c'est possible, ouais, mais des moins jeunes, hein, ça touche différentes générations, mais... Et ce qui m'a plu, c'est que non seulement il a ce champ-là dans son activité, mais en plus, lui, c'est quelqu'un, de par sa formation, qui vient du Théâtre National Populaire, du TNP en France, un des théâtres les plus mythiques qui soit, à l'époque de Roger Planchon. Donc, un des grands maîtres du théâtre. Donc, il a à la fois ce goût, ce sens du plateau, et puis une espèce d'immédiateté dans sa façon de travailler avec les comédiens, de tailler, de sculpter dans le récit. L'adaptation est formidable, qu'il a signée avec Loïc Varro. Et c'est un spectacle qui est jouissif. Là, ils ont fait une série de répétitions ici à Carouge avant de le créer à Chalon-sur-Saône. Et c'est, mais là aussi, un grand moment de bonheur théâtral où on peut venir en famille, où les parents, justement, peuvent en profiter pour amener leurs adolescents ou leurs grands-enfants pour profiter de ce moment de théâtre où la famille peut se retrouver autour d'une grande histoire qui fait plaisir, où on rit, où on pleure, où on est ému, enfin la totale. Donc je me réjouis vraiment de ce spectacle qui aurait dû se jouer au mois de septembre et qui a été déplacé. C'était une des mesures de protection que j'avais prises, qui se jouera finalement à la cuisine au mois d'avril. Et puis dans notre petite salle, on a la reprise d'un spectacle créé non loin d'ici, hein, juste à côté, au Théâtre des Amis, dirigé par Françoise Courvoisier, qui est la mise en scène de « Oh les beaux jours » de Beckett par Claude Villemain, avec dans le rôle de Winnie, qui est un des rôles mythiques du répertoire, Anne Durand. Et que c'est vrai que voilà, ils ont fait une série déjà importante, 3 semaines, ils ont joué à Carouge dans une toute petite salle avec une petite jauge, et que pour moi ça fait partie de mes missions de dire mais il y a certains spectacles qui doivent vivre plus longtemps, à la fois pour qu'ils touchent un plus large public, ça me paraît de l'ordre du bon sens, mais aussi pour la pratique des comédiens, c'est-à-dire de jouer 10 fois un spectacle ou de le jouer 80 fois, ça n'est pas tout à fait le même métier. Et que moi, mon travail est de défendre le métier sur le long terme, l'approfondissement de la partition, de l'interprétation. Pour ça, il faut donner du temps d'exploitation et des longues séries aux comédiennes et aux comédiens et à la technique qui les entoure et qui fait partie à part entière de la représentation. Donc là, ils viennent reprendre ce spectacle parce que je pense qu'ils ont touché à quelque chose de rare, c'est à l'humour de Beckett. La pièce est incroyable, c'est une femme enfermée dans un mamelon, on voit que son torse et sa tête, où elle nous raconte des histoires, et puis la deuxième partie, il n'y a plus que sa tête qui dépasse. On a ces images mythiques de Madeleine Renaud dans la mise en scène de Barrault, où elle avait été lumineuse. Et là, Anne, dans sa façon d'appréhender cette langue-là, avec une logique qu'ils ont développée ensemble avec Claude Villemain, fait que le texte nous jaillit aux yeux et au visage, qu'on est bouleversé par cette langue, parfois cette absence de langue, et on arrive à rire de Beckett. Et que souvent, c'est quelqu'un qu'on dit « Oula, oui, mais ça c'est du théâtre, c'est sombre, c'est noir », mais évidemment, ça n'est pas que ça. Et qu'il y a beaucoup d'a priori de la part des spectateurs ou du grand public qui catégorisent ou qui disent « c'est ça ». Mais c'est comme si on disait à quelqu'un « toi t'es gentil » ou « toi t'es méchant ». Mais non, ça va dépendre du moment de la journée ou du contexte ou de ce qui vient de lui arriver ou de ce qui va lui arriver. Donc c'est plutôt dans ces effets de kaléidoscope en disant « mais nous sommes l'addition de segments, de moments, de tranches de vie ». C'est ça qui nous constitue. Et là, ils sont arrivés à toucher ce concret-là dans l'écriture de Beckett et que pour moi, le jeu valait largement la chandelle de leur donner une deuxième prise d'une certaine façon, en disant que la première était extrêmement réussie et que là, ce spectacle mérite d'être joué sur une longue série ici dans notre petite salle. Et puis on terminera la saison avec les amateurs, une troupe que nous avons à demeure ici au Théâtre de Carouge, et qui jouera un texte qui a été écrit sur mesure pour eux par Valérie Poirier, l'auteure genevoise, qui était récemment récompensé par la Confédération pour son travail et son écriture. Et elle, qui écrit la pièce et commet en scène avec Nathalie Cuenet et Xavier Fernandez-Cavada, eh ben, ils leur ont préparé un spectacle qui se jouera, qui sera le dernier sur le plateau de la cuisine à la toute fin du mois de mai, tout début juin, avant que nous disions adieu à la cuisine et que nous rejoignions le futur théâtre qui sera le plus beau théâtre du monde, parce que tout simple et merveilleusement réfléchi à chaque endroit. Voilà, donc c'est eux qui clôtureront la saison. Et puis, il y a une autre aventure à laquelle j'ai souhaité que le Théâtre de Carouge soit associé. C'est une série théâtrale au long cours, puisqu'elle a commencé à la fin de cet été au Théâtre de l'Orangerie. Ça s'appelle « Vous êtes ici ». Et ça sera mis en scène chez nous. Chaque épisode est mis en scène par une équipe différente. Ici, c'est un des grands noms de la Suisse romande du théâtre qui s'appelle Oscar Gomez-Mata, qui viendra pour travailler avec cette équipe. Et en fait, c'est une bande d'acteurs qui va traverser toute la saison et qui vont jouer au futur pavillon de la danse. Ils ont joué aux poches, ils ont joué à l'orangerie. Ils jouent dans différentes institutions et ils viendront pour l'épisode numéro 6 à Carouge au mois de février, où on va retrouver tous les personnages à qui est arrivé une chose incroyable, c'est qu'il y a eu un événement surnaturel qui a fait effondrer leur immeuble et l'humanité a disparu et ils sont là pour essayer de la réinventer. Et dans l'épisode de Carouge, ils font un grand forum de discussion sur quel monde on a envie pour demain. Et que connaissant Oscar Gomez-Mata et la bande d'acteurs et puis le collectif d'auteurs avec Julie Gilbert et Jérôme Richer, entre autres. Voilà, je me réjouis de leur capacité à nous faire nous amuser des perspectives qu'ils vont nous inventer pour un demain de théâtre. Voilà sur la vision de la saison, en sachant qu'on va traverser ça comme un slalom spécial, c'est-à-dire de passer porte après porte. On sait qu'il y en a où... probablement qui ne pourront pas jouer, parce que la grande difficulté qu'on traverse aujourd'hui, bah forcément, comme l'entier de la société, ce sont les incertitudes, avec un manque patent quand même de messages des autorités qui donneraient des perspectives ou du sens à tout ça. On a l'impression que nous sommes que dans la réaction, mais j'insiste...
Mais jamais dans l'anticipation, en tout cas.
Ouais, ouais.
C'est ça le problème.
Ouais, exactement. Et pour le coup, pour nous, où on travaille sur la programmation d'une saison plus d'une année à l'avance. Et puis ensuite, quand on lance la billetterie, ce n'est pas en appuyant juste sur un bouton en disant « ça y est, j'ai 500 personnes, venez plus ». Pour les équipes...
En particulier pour les spectacles invités.
Bien sûr, non, mais aussi pour nos créations. Dès qu'on rentre dans des longues séries, là, on a pu le mesurer au mois de mars, et toutes les mesures que j'ai prises visaient de protéger justement mon équipe, parce que quand vous passez votre temps à prendre des réservations avec moi qui mobilise l'équipe pour aller chercher les spectateurs, et on en a des dizaines de milliers qui viennent, et qu'ensuite il faut les rappeler les uns après les autres pour leur dire désolé, on ne peut pas jouer, désolé, on va reporter, est-ce que vous souhaitez être remboursé, est-ce que vous souhaitez avoir un avoir, et ça c'est un travail, c'est tout ce que je peux faire, prendre comme mesure pour les protéger de ça, je pense que il faut le faire pour nous aider à tenir sur le long terme avec, et ça c'est une chance que nous avons ici au Théâtre de Carouge, c'est que nous on a une perspective très concrète. C'est qu'à l'orée de décembre 21, janvier 22, on a encore une fois un bâtiment qui répondra à tous nos besoins, aux besoins des professionnels qui travailleront dans ce théâtre, et puis qui sera un havre de paix et de stimulation, un accélérateur de particules d'imagination pour les spectateurs. Et ça, je me dis, on est en pleine chienlit, il faut qu'on tienne bon, il faut que les autorités soient réactives, notamment les cantons aujourd'hui trouvent une unité en Suisse romande, parce que sinon c'est une gabegie absolue. Il faut pouvoir qu'ils puissent aller vite, il faut qu'ils puissent nous écouter, nous professionnels de la profession, qui sommes en lien avec les publics, qui connaissons parfaitement nos pratiques. Donc il y a besoin de ces concertations, qui n'ont pas lieu aujourd'hui, pour nous donner des échéances, mais à moyen terme. Et non pas juste être dans une politique de stop and go, où on fonce et on engage des énergies énormes pour arriver à sortir des spectacles qui verront lieu, qui verront pas lieu, qui verront lieu un petit peu, qui vont jouer finalement à 15h, qui se joueront pas. Enfin, cette chose-là, elle va casser à la fois le moral tant des artistes que des spectateurs qui pourraient se lasser de ça. Donc, il va nous falloir apprendre à vivre avec ce virus pendant de longs mois encore, et que ça nécessite une réelle concertation, une réelle réflexion sur comment on gère ça. Et que là, je le vois avec l'équipe de Cyrano, dont j'ai la charge jusqu'à mi-décembre. Y aura-t-il des représentations au mois de décembre à Lausanne? Pour le moment, je suis incapable de le dire. Ce que je sais, c'est que la tournée française s'est effondrée, parce que la France est passée en confinement, donc nous devions jouer il y a quelques mois, je vous aurais dit avec un sourire qui allait jusqu'aux oreilles. Ben, je me réjouis parce que le théâtre de Carouge s'exporte à Lyon, Paris et Marseille. Puis aujourd'hui, je vous dis, ben non, c'est une catastrophe parce que Lyon, Paris, Marseille, eh ben, c'est là où il y a les pires cas d'infection. Donc, on ne peut tout simplement pas y aller. Donc, c'est un manque à gagner énorme pour le théâtre. Et c'est dans ces moments-là où on a besoin que le fédéralisme fonctionne à plein, que nous soyons épargnés par les conflits entre la Confédération, les cantons et les villes. Parce que c'est dans ces moments-là où les synapses doivent être les plus simples et efficaces possibles, que les gens se mettent en position de travail en restant concentrés. Et puis, en ne cédant pas qui va payer. Ben alors moi, je vais faire juste cette mesure comme ça, ce n'est pas à moi de prendre en charge, qui sont des choses où...
Les comptes d'apothicaires qui n'ont pas en fait de conséquences pour soutenir justement...
Ben, c'est-à-dire qu'il y a des milliards qui ont été investis depuis, depuis des décennies sur la culture. Et là, on est en train de parler de la disparition d'un écosystème. Et que moi, je veux bien qu'il y ait des déclarations de Madame Chassot à l'Office fédéral de la culture qui dit, ben voilà, effectivement, de cette deuxième vague, il y en a plusieurs qui n'en sortiront pas. Mais moi, je n'ai pas besoin que les autorités me disent, ah ben le bateau coule, courage à ceux qui n'en reviendront pas. Ok, d'accord, dont acte, c'est peut-être un fait, ça sera une réalité qui s'avérera, j'en sais rien. Moi, j'ai besoin d'un message qui dise, voilà. Voilà ce qu'on va faire pour vous. Voilà pourquoi c'est nécessaire que nous vous soutenions. Et qu'encore une fois, si les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure de l'importance des lieux culturels, du rôle qu'ils ont à jouer aujourd'hui comme maintien de la démocratie, le retour de flamme sera vertigineux pour eux. Ça n'est pas une menace, c'est un avertissement. Si les pouvoirs publics ne comprennent pas que la culture doit être au cœur d'un dispositif qui permet d'apporter de l'apaisement, de la réflexion, du partage, du vivre ensemble, alors c'est qu'ils n'ont rien compris, mais ils le paieront très cher. Et qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dire que le milieu artistique, voilà, fait l'autruche et ne sait pas ce qui est en train de se passer dans les hôpitaux où on est en train de faire des choix, ou dans l'économie où il faut maintenir les emplois, pas que dans le secteur culturel, que l'enseignement pour moi est fondamental, qu'il y a besoin de ces mesures d'anticipation sur comment on fait correctement pour nos enfants, l'école à la maison, par exemple. Donc, il y a quelques pivots clés de la société dont la culture fait partie à part entière, et qu'on se retrouve à nouveau dans cette situation où on voit que pour les plus hautes autorités, qu'elles soient cantonales au niveau des conseils d'État, au niveau de la Confédération, la culture reste une cerise sur le gâteau, un gadget. C'est une erreur fondamentale et j'espère au fond de mon cœur qu'ils n'auront pas à le payer très cher.
Merci Jean-Lamy. Là, vous avez regroupé au moins 10 de mes questions. Vous avez anticipé. Je précise pour les auditeurs que vous êtes non seulement le directeur du théâtre de Carouge, mais aussi vous présidez la Fédération romande des arts de la scène, ce qui permet aussi d'avoir peut-être une vision panoramique de tout ce qui se passe et peut-être des échos des comédiens en général, du baromètre actuel de l'état des comédiens, des metteurs en scène. J'imagine que vous êtes au fait même de tout ce qui se passe dans la profession de tous côtés.
Bien sûr. Alors, c'est une situation extrêmement douloureuse et difficile pour le monde des arts de la scène en général. Donc la Fédération romande des arts de la scène, elle regroupe une cinquantaine d'institutions de théâtre qui travaillent de façon différente, soit parce qu'ils accueillent des spectacles qu'ils achètent ou qu'ils sont amenés à coproduire, ou qu'ils les fabriquent. Donc il y a deux associations qui sont réunies au sein de la Fédération qui permettent d'avoir une photo sur la Suisse romande assez claire des activités. Et puis vient se greffer là-dessus les compagnies, qui est un domaine un petit peu à part, mais qui travaille de concert avec plusieurs des institutions de la France, et que là, par rapport à la première vague, les soutiens, parce que le Conseil fédéral a dit, d'accord, les messages étaient assez clairs, et il était assez encourageant, en disant, voilà, il y a trois lignes. La première, c'est le SECO, qui donne accès au RHT, aux
L'indemnité de chômage.
L'indemnité de chômage, ouais. La réduction à temps partiel du travail pour les contrats à durée déterminée et pour les institutions culturelles subventionnées. Le deuxième volet, c'était les fonds d'indemnisation, où la Confédération met une somme X et le canton doit mettre l'équivalent de cette somme-là pour subvenir aux besoins immédiats, notamment les manques à gagner des différentes structures. Et puis le troisième volet, c'est un travail plutôt avec les communes pour maintenir les subventions qui étaient engagées. Il se trouve que sur le papier, c'est bien, que la mise en application de ces règles, ça a été extrêmement fastidieux, extrêmement long. Qu'aujourd'hui, bah nous, typiquement au Théâtre de Carouge, on n'a toujours pas de réponse, tant sur le fonds d'indemnisation que les RHT. Heureusement que la ville de Carouge a maintenu sa subvention. Sinon, le théâtre serait fermé, c'est tout. On serait fermé. On serait en faillite, c'est terminé, on peut pas continuer. Et que je pense qu'encore une fois, à la hauteur des investissements consentis dans ces dernières décennies, ça serait une erreur stratégique, que un gâchis épouvantable, que de ne pas soutenir momentanément ce secteur-là pour lui permettre de continuer à vivre. Donc, il y a à la fois de la part ce que nous pouvons attendre de la part des cantons, c'est une concertation de leur part. C'est-à-dire de ne pas avoir des mesures qui soient disparates entre les différents cantons,
Et
qui brouillent les
parcellaire.
pistes. Une forme de transparence sur comment ils édictent des règles qui permettent d'aider, de soutenir ou non. Là, on n'a aucune vision par rapport à ça. On a assisté dans la première vague à des situations qui étaient mais ubuesques. Donc ça, c'est le premier point. Que les cantons travaillent vite et bien et en concertation aussi avec le milieu professionnel qui a des choses à dire et des propositions à faire. Et puis le deuxième volet, et là il est plutôt au niveau fédéral, il est fondamental, et pas simplement pour le monde de la culture, mais que la Confédération revienne sur ce qui était prévu jusqu'à la fin du mois d'août, revienne sur les RHT, la réduction de l'horaire de travail pour les contrats à durée déterminée. Il y en a énormément dans le monde, milieu de la culture. Ce sont les plus faibles, les plus fragilisés. Il faut impérativement aujourd'hui les soutenir parce que de toute façon, ils émargeront à l'aide sociale si on ne le fait pas. Donc de toute façon, l'État devra subvenir à leurs besoins. Donc autant travailler sur des dispositifs qui sont encourageants et qui favorisent l'emploi plutôt que
En aval,
exactement, plutôt en
en
aval.
amont, plutôt.
Et que ça permette aux gens de travailler, enfin, d'avoir des perspectives et une dynamique positive. Et j'insiste parce que les CDD ne touchent pas que le milieu de la culture, pas que les techniciens, pas que les comédiennes et les comédiens. Mais dans le monde de l'hôtellerie, dans le monde de la restauration, il y en a beaucoup qui peuvent être touchés par ces mesures-là. Et que là, je pense qu'on précarise et on fragilise tout un pan de notre société et qu'il est vraiment pour moi urgent et fondamental que la Confédération revienne, redonne accès aux RHT, à cette frange de personnes qui bénéficient de contrats à déterminer, c'est-à-dire qui sont encore véritablement les plus fragiles. Nous devons, l'État se doit d'en prendre soin.
Merci Jean Lhermier, on sent votre énergie et aussi votre pugnacité, on espère qu'elle sera entendue. Et merci de nous avoir accordé du temps dans ce contexte très difficile. Merci beaucoup, on est d'autant plus reconnaissant.
Merci infiniment à vous d'être venu jusqu'au Théâtre de Carouge. Et encore une fois, voilà, traversons ces épreuves, courbons l'échine, on se prend des coups de grands, grands boxeurs un peu dans tous les endroits du corps. Il faut tenir bon, il faut garder le cap. Deux jours meilleurs viendront. Et encore une fois, il me paraît fondamental que nous soyons soutenus par les autorités pour que dans ce moment de crise, nous puissions nous jouer notre rôle à plein et que quand de jours meilleurs seront là, nous soyons présents pour faire la fête avec tout le monde.
Merci Jean Lhermier.
Merci à vous.